Trêville PM. Faut que je te raconte.
Des milliers de prostates ont besoin d'aide et souffrent. Elles vous tendent la main. Alors, vos dons serviront aux boys à donner un bon gros cross-check au cancer.
Voici Michel Barrette.
C'est Méo. Méo oui. Qui nous parlait de sa prostate.
Oui, il voulait ramasser des fonds pour la prostate des boys. La prostate vous tend la main. Il a dit ça. La prostate vous tend la main.
Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de prostate à nos auditeurs aujourd'hui, mon cher
Parce
Michel?
Parce qu'on a su que les compagnies d'assurance faisaient, à l'insu des clients ou des futurs clients, des tests pour détecter le cancer de la prostate et décider si, oui ou non, il allait les assurer.
C'est ça.
Mais on apprend dans l'article de que...
Jonathan Lavoie, oui.
Oui, de Jonathan Lavoie, que, et j'en suis témoin de ça, que parfois, le test ne peut pas être si... Comment je te dirais bien ça?
Si sûr que ça?
Sûr que ça. Parce que parfois, là, lorsqu'on parle de... lorsqu'on a une prise de sang et que notre médecin découvre que notre taux d'antigène prostatique est élevé, il peut aller plus loin. Il peut aller fouiller. Dans mon cas, c'est arrivé. Taux de prostatique élevé fois après fois, chaque fois que je fais mon bilan annuel, toujours. Et là, on est allé plus loin. On est allé faire une biopsie.
Oui.
On est allé faire de la résonance magnétique, le toucher rectal, bien sûr. Alors, on a fait le tour à chaque fois pour être certain qu'il n'y avait pas un problème au niveau de la prostate. Et la dernière fois, puis je l'ai appris encore ce matin, puisque je l'avais oublié, que ma femme m'a dit, mon amour, parce que je savais qu'on allait parler de ça, a dit, ton médecin, la dernière fois, t'a dit, on n'en reparle plus avant 5 ans. Arrêtez de vous en faire année après année. Là. Vous
même, avez si taux, même si ton taux est élevé, tu n'as pas de problème.
J'ai pas de symptômes. Alors, c'est un peu ce qu'ils disent. À un moment donné, il ne faudrait pas. L'Institut national d'excellence en santé et services sociaux du Québec ne recommande plus de dépister le cancer de la prostate chez les hommes qui ne présentent aucun symptôme.
Oui. Ça, c'est alors, l'INES, comme on l'appelle, qui est un espèce d'organisme qui est là pour prescrire ou conseiller le système de santé sur les meilleures pratiques. Très bien. Mais là, ce qu'on apprend dans le papier de Jonathan Lavoie, c'est les compagnies d'assurance, ils peuvent décider à partir de ta prise de sang.
Bye.
Ils vont le tester, eux autres, si ton taux de prostatite. Mais ils te le diront pas.
Non. Mais ils vont te refuser.
Et là, s'ils te refusent, c'est ton expérience, si je ne m'abuse. Ils vont pas nécessairement te le dire. Pourquoi ils te refusent?
Parce que comme ils te l'ont pas dit qu'ils allaient faire un test,
ils peuvent pas dire qu'ils te l'ont, qu'ils te l'ont passé, et donc qu'ils sont inquiets, et donc ils t'assurent pas.
Bon, moi un jour, je suis refusé par une compagnie d'assurance vie. Et là, je comprends pas. Je reçois un refus. Et là, moi, je veux savoir pourquoi. Suite à votre examen médical, prise de sang et tout là, refus. Moi, je veux savoir pourquoi. Là, vous me refusez, mais voulez-vous au moins me dire pourquoi? Il a fallu vraiment que je les talonne pour qu'ils me disent, qu'ils finissent par me dire, vous avez une anomalie sanguine. Oh. Et là, j'ai dit, quelle anomalie? On ne veut pas me le dire. Alors, un peu de panique, appel au médecin.
Parce que là, tu t'inquiètes. Tu dis leucémie, VIH, sida, c'est sûr.
Nommez-les.
C'est sûr.
Alors, il a fallu que j'aille moi-même voir mon médecin, qui m'a passé les tests pour me dire que mon taux de cholestérol était élevé.
OK, c'était ça.
Il était très élevé, mais il était élevé. On a corrigé depuis avec de la médication.
Exact.
La médication. Et maintenant, il n'y a pas de problème. Mais cette compagnie-là m'a mis de côté. Alors, je me suis inquiété. On m'a refusé. Alors, toutes ces choses-là sont nées du fait qu'à mon insu, on a pris une prise de sang, mais qu'on a décidé, sans me le dire, que je n'allais pas être éligible à l'assurance, mais sans me dire le pourquoi de la chose.
Mais moi, la question que je voulais te poser, puis je pense que c'est une bonne question à poser à nos auditeurs, c'est est-ce que ça vous dérange qu'on vous fasse passer, par exemple, une prise de sang et qu'on décide qu'à partir de cette prise de sang-là, qu'on vérifie un certain nombre de choses sans vous le dire. Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez absolument savoir? Est-ce que vous... Par exemple, il y a quelqu'un qui m'écrit, Michel, pendant qu'on se parle, il dit « Test à notre insu, c'est pas illégal, ça? »
Visiblement,
non, mais si les compagnies d'assurance le font, on peut penser que si elles le font d'une manière standard, on peut penser que c'est légal.
Ça, c'est pas la seule chose qu'on pourrait penser qu'ils sont légales.
Exact. C'est légal jusqu'à temps que quelqu'un décide que ça ne l'est pas.
Ouais.
Tu sais? Mais que ce soit légal ou pas, est-ce que ça vous dérange?
Moi, dans la manière, exemple, moi, quand je, 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 je fais un bilan annuel, je m'attends que ma prise de sang, les différents examens m'apportent un bilan complet.
Oui.
Un autre exemple, OK? Il y a, en 1990, je fais une pneumonie. Je vis dans le secteur de Grand Bay. On m'hospitalise à l'hôpital de Grand Bay. Au bout de 10 jours de traitement, mon médecin vient me voir et me dit, Michel, j'ai un problème. Je dis, c'est quoi votre problème? Je suis pas capable de te guérir. Voyons donc, c'est quoi? C'est depuis qu'un médecin veut... C'est une pneumonie, vous envoyez des pneumonies. Il dit, oui, mais je ne réussis pas les traitements antibiotiques que vous voulez, je ne réussis pas. Ben, je dis, vous allez faire quoi? Il me dit, je voudrais te passer un autre examen, mais pour ça, il faut que je te demande la permission. Je dis, un petit peu, vous ne m'avez passé pas tous les examens. Pourquoi vous avez besoin subitement d'une permission pour un autre examen? Il dit, c'est quoi l'examen? Il dit, le dépistage du VIH. Je dis, vous ne le faites pas systématiquement? Il dit, non, non. Ben, voyons comment vous allez... Arriver au bout de...
Arrêter cette épidémie.
Arrêter cette épidémie si oui. vous n'êtes pas capable systématiquement, lorsqu'on fait des tests sanguins, de le déceler. Non, parce qu'il dit, là, il faut avoir l'autorisation parce que c'est très personnel. Comment personnel? Que ce soit le VIH ou une maladie cardiaque, est-ce que j'ai un problème? Si oui, soignons-le puis prenons-le de bonne heure. Alors, j'ai dit, mais pourquoi vous ne passez pas le test? Parce qu'il dit, Michel, écoute bien, si je demande un test pour toi ici à l'hôpital, alors, il va avoir sur le dossier écrit « test de dépistage du VIH mm-hmm. ». Ça prend juste une personne, mettons, au bureau en avant, qui va dire à l'autre personne, hey, « Michel Barrette, là, il va avoir un test du VIH ». On parle de ça en 1990, okay. là.
Puis là, le rendu au troisième, ça va être « Michel Barrette, il y a le sida ».
Je dis là, parce que vous voulez protéger ma réputation. Mais c'est juste pour moi, c'est pour tout le monde, monsieur. Pour tout le monde, mais vous, parce que vous êtes connu, c'est encore pire. Ah non, non. Là, je hurlais dans l'hôpital. J'étais dans ma chambre. Je veux un test pour le VIH! Je veux... Là, on dit, monsieur, arrête. Non, mais hey, vite.
T'as fait ça vraiment?
Oui, j'ai crié parce que je voulais montrer aux gens que ça me passait 1000 pieds par dessus la tête. J'ai besoin de savoir. Je ne vais pas me cacher en dessous du lit en disant, oh, peut-être que je l'ai, peut-être que je ne l'ai pas. Je veux le savoir. Puis à partir du moment où j'ai su qu'il ne passait pas systématiquement le test, je me suis mis à être inquiet. Alors, prise de sang, attendre des résultats, qui heureusement étaient négatifs. Mais là, j'ai embarqué dans un... Alors que si j'avais su que, dès le départ, à la première prise de sang, en entrant à l'hôpital avec ma pneumonie, on avait décelé tout ce qui était possible de déceler, ça aurait juste fait partie du reste.
Alors, 790-9850, si ça vous tente de vous joindre à la conversation que Michel et moi avons présentement sur les tests à votre insu, d'abord... Et deuxièmement, la manière avec laquelle ils sont gérés. Parce que j'ai quelqu'un qui m'écrit, il dit, garde, il dit, moi, le test, je suis d'accord, mais donnez-nous les résultats après et les résultats complets.
Complets,
parce
ben
que,
oui.
dans le fond, dans ton premier exemple, Michel, ils t'ont rendu service.
Oui.
Ils t'ont rendu service parce que tu as découvert au terme de ta longue recherche, où tu as dû être insistant, que tu avais un problème de cholestérol. Mais imagine-toi s'ils ne te l'avaient pas dit, tu ne savais pas. Mais s'ils décident de te tester à ton insu, la moindre des choses, c'est qu'ils te donnent les résultats criminels.
Surtout s'ils veulent me garder en vie. Parce que s'ils veulent m'assurer plus longtemps, je veux dire, ils ne veulent pas avoir à payer pour moi 2 ans près.
Non, mais
si
là, dans ce cas-ci, ils ne t'ont même pas assuré, par exemple.
Non, ils ne m'ont pas assuré.
Mais tu as raison. Justement... Mais s'ils décident de t'assurer, j'imagine qu'à ce moment-là, ils te disent, ils n'ont pas le choix de te le dire, j'imagine.
Oui, mais c'est ça, on est entre deux chaises. Parce que s'ils détectent quelque chose, ils ne t'assurent pas, mais ils ne disent pas pourquoi. Il faut que tu gosses pour savoir pourquoi. Puis s'ils détectent rien, ben là, tu dis, ils ont tout fait, ben j'ai rien. Moi, c'est là que j'ai commencé à aller au privé, puis c'est là que j'ai commencé à avoir des bilans annuels, parce que je me suis dit, c'est trop important. Puis comme ça, maintenant, quand je regarde mon médecin dans les yeux, que je lui dis, on passe un bilan complet, c'est complet.
Voilà. Alors, j'ai Richard qui m'écrit. Il dit, les tests PSA, donc, c'est PSA, c'est prostatique spécifique. Le taux d'antigène prostatique spécifique. Alors, le test PSA pour la prostate requiert absolument la permission du patient. Ils doivent prendre 3 contenants de sang uniquement pour ce test. Les résultats sont disponibles dans votre dossier Santé Québec. Ah oui, ça, Richard, c'est vrai peut-être au public, mais on ne parle pas du public. Ici, on parle d'une compagnie d'assurance. Voilà oui, ce dont on parle.
As-tu déjà eu ça, une infirmière qui vient à la maison après une demande?
Ben oui.
On vient pour une prise de sang,
certain,
monsieur.
Certain. Exact.
Puis là, même si c'est marqué en bas de la feuille, parce que sur les photos du dossier, on voit, mettons, il y a un petit carré tout petit marqué APS. Mais je sais, tu sais quoi, moi? Ton nom bleu?
Ben non. Bon, exact. Patrice qui nous appelle au 790-9850. Bonjour, Patrice.
Bonjour.
On vous écoute.
Monsieur Barrette, je ne sais pas, ça fait combien de temps que c'est arrivé, votre épisode, vous?
1990.
c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, les gens, quand les compagnies d'assurance font affaire avec des compagnies paramédicales externes, et ces gens-là vous donnent accès à vos résultats. Là. Aujourd'hui, vous êtes capable d'aller voir vos résultats en ligne, les imprimer, les emmener à votre médecin, etc. Fait que c'est pas.
Donc, il y a une demande d'assurance?
Oui, absolument. Oui, oui.
Travaillez-vous dans ce domaine-là, vous, Patrice?
Oui, je suis indicateur financier, je fais beaucoup d'assurance-vie aussi.
OK. Donc, quoi, la loi a été changée pour obliger les compagnies qui font affaire avec des firmes externes, des firmes d'infirmières, par exemple, externes, à rendre public les résultats?
Je ne sais pas si c'est une question de loi. Il y a deux choses qui ont changé. Il y a quelque chose qui a changé récemment où les compagnies d'assurance nous font signer un document à l'effet qu'ils peuvent nous donner les résultats à nous, l'assureur, si jamais ils découvraient quelque chose dans un test sanguin, par exemple, et que nous, à ce moment-là, on peut le communiquer au client sans nécessairement passer par son médecin. Ça c'est assez récent. Communiquer les renseignements au client, là, qui peut aller les chercher lui-même par Internet, je suis pas sûr que c'est une loi, mais en tout cas, présentement, ça se fait. Là, les compagnies paramédicales, quand vous passez un test, ils vous laissent un espèce de code, là, puis à un moment donné, je sais pas moi, deux semaines après avoir passé vos tests, vos résultats sont disponibles en ligne.
Et Patrice, ça, c'est vrai que la compagnie décide de m'assurer ou pas?
Oui, absolument. Basé sur les tests?
Oui. L'accès aux tests, l'accès à mon test que l'infirmière est venue passer chez moi, elle est venue me faire passer chez moi, j'y ai accès, peu importe que la compagnie ait décidé de m'assurer ou pas?
Absolument. Dès que vous avez passé le test, la compagnie paramédicale vous donne un code d'accès puis vous pouvez avoir accès à vos tests.
Ah, bien, c'est utile. Merci beaucoup d'avoir appelé.
Et ça serait bien que systématiquement, lorsque la compagnie d'assurance nous rencontre, il pourrait nous demander, si on est médecin de famille, un médecin soignant, là, tu sais, et que le test...
Souhaitez-vous que ce soit transmis, que l'information soit transmise à votre médecin de famille?
Parce que si tu reçois, toi, le dossier, là, on connaît rien là-dedans, nous autres. C'est marqué des numéros, puis des chiffres, puis des... Tu sais, je veux dire...
Ça, c'est un bon point, ça.
Il faut que le médecin
nous poser la question.
Oui, le médecin pourrait dire, j'ai reçu vos tests, M. Drainville, tout est beau, la compagnie d'assurance m'a envoyé ça, parce que si je le reçois à la maison, je vais faire quoi comme bilan? Moi, je vais regarder des choses que je connais pas.
Mais ce que tu vas faire, c'est que tu vas l'envoyer à ton médecin de famille.
Bon, on va sauver une étape, peut-être.
Y a-t-il quelque chose que tu décodes là-dedans? Ouais. Mais pour en venir à ton exemple, si au lieu de te battre, il avait envoyé l'info à ton médecin de famille, lui, il s'en serait aperçu que tu as un problème de cholestérol.
Oui.
Voilà. On a Diane qui nous appelle maintenant. Bonjour, Diane.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Moi, je veux dire à M. Barrett là, que quand il dit qu'on ne fait plus de prévention, qu'on ne fait plus de tests pour détecter, mais je trouve que c'est s'en aller dans une mauvaise direction. Parce que mon frère, il est décédé il y a 6 ans, à 48 ans, d'un cancer de la prostate. Puis on a découvert ce cancer de la prostate quand son assurance au travail, ça faisait 20 ans qu'il travaillait là-bas, ils ont décidé de faire passer quelques tests à quelques employés dont lui était là-dedans. Et c'est là qu'ils ont découvert son cancer de prostate. Et c'était un homme en pleine santé qui s'occupait des loisirs aussi. Là, les fins de semaine, il faisait du vélo, il faisait plein de plein air, mais il n'a jamais eu de symptômes.
Oui, mais...
Il a eu comme des tests.
Oui.
De prévention, mais peut-être que ça aurait été découvert avant que son cancer soit avancé.
Ma chère dame, j'ai rien contre un dépistage. Je veux juste qu'on le sache. C'est-à-dire que si ma compagnie d'assurance me rencontre, fait une prise de sang...
Qui me donne le portrait complet.
Qui me donne le portrait complet. Et tant mieux, et vous le dites très bien, que si on a quelque chose à déceler, qu'on aille au bout de l'affaire tout de suite. Mais dans mon expertise, dans mon expérience à moi, on a décelé une anormalité... On est allé plus loin, donc biopsie, comme je vous ai dit, la résonance magnétique, appelez ça comme vous voudrez. Et finalement, c'est de l'avis de mon médecin de dire, bon, maintenant, Michel, arrête de t'inquiéter. C'est juste que ton taux d'antigène prostatique est élevé. On se revoit dans 5 ans. Mais je suis d'accord avec vous, absolument d'accord qu'il faut le déceler, mais faut-il que les compagnies d'assurance nous donnent les résultats?
Non, mais moi, vous avez dit à un moment donné que les médecins ne conseillent pas. Ils font plus de prévention ou de décharge comme le cancer du sein. Là,
non, je pense que vous m'avez mal compris.
J'ai peut-être mal compris, mais je me dis, si les tests pour la prostate seraient faits la même chose que les cancers du sein, mais peut-être qu'ils en détecteraient plusieurs avant avant que ça soit grave. Là. C'est ça que,
oui.
que je veux dire.
Je pense, que vous, je pense, Diane, vous vous entendez sur le fond, là, vous et Michel. Merci pour l'appel. Là, j'ai, juste avant d'aller à la pause, j'ai quelqu'un qui m'écrit ceci. Michel, il dit, Bernard, il dit, on ne donne pas le détail des résultats sanguins, car dans les années 80, des gens apprenaient par leur assureur qu'ils avaient le VIH, par exemple. Ce n'est pas le mandat de l'assureur d'annoncer des nouvelles aux assurés sur leur santé. Quand les assurés nous demandent les détails, on leur fait signer un formulaire et on transmet tous les détails à leur médecin.
Ça devrait être systématique à ce moment-là. Test d'assurance, résultat envoyé au médecin.
Voilà.
Comme ça, le médecin, lui, pourra dire, mon cher M. Dreyville, on a un problème.
Ou encore, il n'y en a pas.
Ou il n'y en a pas.
Très bien. Au retour, on se parle transport scolaire.
Oui.
En fait, transport d'enfants, justement. Transport d'enfants. Écoutez bien cette histoire-là au retour. Je suis certain que vous allez trouver ça vraiment, pas juste bizarroïde.
Un zélé,
un peu trop zélé. Puis là, c'est la sécurité des enfants qui est remise en question. Revenez-nous après la pause.
Dreyville PM. Faut que je te raconte. Voici Michel Barrette.
Les roues de l'autobus se tournent. Les roues de l'autobus se tournent dans toute la ville.
C'est une comptine d'enfants. Comptine d'enfants qui porte sur les autobus. Tu l'as bien compris, mon cher Michel.
Oui, les roues de l'autobus.
Alors, c'est Louise Leduc de La Presse ce matin qui nous raconte cette histoire. Il s'appelle Daniel Frenette, le monsieur.
Mm-hmm.
Ça fait 15 ans qu'il transporte des enfants de 4 ans dans une prématernelle privée, dans un petit autobus. C'est un mini-autobus scolaire.
Oui.
Qui était doté d'une qui était doté de clignotants, tu sais les clignotants là comme chez les autobus jaunes.
Il y a un permis du ministère de la Famille,
c'est ça.
Il y a un permis de la Commission des transports du Québec et il y a une plaque d'autobus. Donc
il utilisait les clignotants et il utilisait son panneau d'arrêt escamotable,
oui,
tu sais qui se déploie
parce que pour la sécurité des enfants entre 3 et 5 ans ceux qui transportent il en transportait 200 par semaine, ben c'était logique.
Bien sûr.
Mais ça prend un zélé,
c'est-à-dire un contrôleur routier de la SAAQ.
Qui l'a collé, il a donné une contravention de 536 $.
Parce que, selon le Code de sécurité routière, il y a juste les commissions scolaires et les écoles reconnues par le ministère de l'Éducation qui peuvent transporter des enfants dans un autobus avec feu clignotant et panneau d'arrêt escamotable. Et comme lui, il avait son permis, non pas d'une commission scolaire, mais du ministère de la Famille, parce que c'est des 4 ans, ben, il n'a pas le droit d'avoir un panneau stop puis des clignotants.
Mais c'est-tu absurde? Imagine le contrôleur routier là, qui colle ce gars-là avec des enfants dans l'autobus.
C'est ça, toi, de ta tête.
C'est toi, de ta tête. Écoute, le monsieur, il fait tout pour protéger les enfants. Toi, tu lui donnes un ticket, l'innocent, parce qu'il n'y a pas les clignotants. Le contraire devrait être vrai. C'est-à-dire que si on transportait des enfants sans qu'il y ait ça, il me semble que là, tu devrais coller le véhicule. Dire, écoutez, vous transportez des enfants qui vont avoir traversé la rue, ça vous prendrait au minimum les feux clignotants parce que les voitures s'en viennent, ils ne voient pas que vous êtes un véhicule de transport d'enfants. Tout ça, c'est... Alors, depuis ce temps-là, ben là, il est poigné.
Il est obligé d'enlever ses feux clignotants et son panneau d'arrêt. Puis là, il est inquiet pour les enfants.
Il n'a pas le droit de débarquer de l'autobus. Il ne peut pas laisser les enfants seuls dans l'autobus. Il se fait aider des parents, il se fait aider des voisins qui voient arriver l'enfant. C'est complètement... Déjà, c'est tellement dangereux. Pas plus tard que la semaine passée, devant chez moi, je sors avec ma femme et Jonathan, 12 ans, qui s'en va à l'école. L'autobus arrive, comme à tous les matins, met les clignotants. Mais nous, que ce soit moi ou ma femme qui attendent après l'autobus avec Jonathan, ben on attend. On attend pour être certain, même si l'autobus est complètement à l'arrêt avec les clignotants, qu'il n'y ait pas de voiture. Et il est passé une dame qui jasait avec une autre. Elle passait à côté de l'autobus. Elle n'a jamais rien vu. Zap! Elle jasait.
Elle passait à brûler le stop. Le stop escamotable.
Oui, ben il était pas dans son chemin. Là. La barrière, elle bloque pas l'autre.
Non, partie, non, mais elle est déployée. Là.
Elle est déployée devant. L'autobus, en avant de chez moi, je me rappelle pas. Je pense pas qu'il y ait de... Le panneau, là, je pense.
Ben, il est supposé. Faire,
ben, je vais vérifier. Je vais vérifier demain matin.
Tous les autobus scolaires ont ça, là.
Ouais, parce que quand je vois mon fils qui traverse la rue, y a-t-il une barrière? En tout cas, peu importe, elle passait à côté de l'autobus. Fait que si mon fils avait été seul, puis que lui, en voyant arrêter l'autobus, il avait dit, bon, ben, l'autobus est arrêté, les clignotants sont dessus, je traverse la rue.
Il se faisait
ramasser par une dame qui jasait, puis qu'elle l'aurait jamais vu. Et je suis sûr que nos auditeurs ont des exemples comme ça. J'ai vu un reportage à un moment donné sur un réseau américain où ils montraient justement, parce que dans plusieurs États américains et même dans certaines villes canadiennes, il y a des gens qui installent des caméras sur le côté de l'autobus. La caméra s'active au moment où on active les clignotants, ce qui fait que ça enregistre ce qui se passe au moment où les enfants auront traversé. Alors, si jamais il y a un véhicule qui décide de passer quand même, ben là, il est vu par la caméra.
Donc, ta madame, par exemple, dans ce cas-ci, si il y avait une caméra, tu envoies ça à la Sûreté du Québec, ben, mettons, là?
Un petit avertissement, madame, faites attention, ou un ticket, je sais pas quoi. Ben, vous mettant en danger la vie des enfants. C'est aussi simple que ça. Puis, il y en a qui s'en foutent. Il y en a qui dépassent. Il y en a, les clients embarquent, ils disent, l'autobus n'est pas encore arrêté. Ah ouais, paye sur le gaz, on va le dépasser. On tu sais, le monde, ils sont pressés, puis là, on veut un maudit autobus scolaire. On est rendu là. Alors, qu'est-ce qu'on fait?
Tu sais, la fameuse pancarte, là, « Et si c'était votre enfant? »
Ouais.
Hein? Uh-huh. « Et si c'était votre enfant? » Alors, 790-9850, est-ce que vous avez eu des expériences de cette nature-là?
Êtes-vous rassuré? Est-ce que vous avez peur de voir vos enfants prendre... Moi, quand je roule dans le rang, là, puis que je vois un enfant seul sur le bord du chemin, je suis toujours inquiet. Inquiet, un, parce que je sais que l'autobus va arriver, puis ça va peut-être être un innocent même qui va dépasser l'autobus. Deux, maintenant aussi, parce qu'il y a les gens qui textent, et qui, parfois, en textant, embarque sur l'accotement où un enfant se trouve peut-être en train d'attendre l'autobus.
Tu vois, il y a quelqu'un qui m'écrit, il dit, c'est un ticket, puis 9 points de démérite brûler un stop d'autobus.
Quinte, ouais. Mais s'il y avait des caméras, on pourrait...
C'est parce que tu pourrais... Les caméras, là, je veux dire... J'allais dire, une fois que l'enfant a été frappé, c'est bon rien, la caméra, là. Mais ça peut avoir un effet dissuasif en maudit,
oui,
par
parce
exemple.
Que si tu sais que tu vas être catché par le.
Exact. Si tu sais que, oui, voilà, tu vas finir par payer pour parce que le chauffeur. Dans le fond, ça appartiendrait à ce moment-là au chauffeur d'autobus. À dire, là, il y a un monsieur, une madame, là, qui m'a. Qui a brûlé le stop.
Et voici le ruban, voici le.
Voilà.
Le ruban, je
fais. Non, mais tu t'envoies le fichier à la Sûreté du Québec.
Ouais.
Tu sais, puis garde, c'est Tigidoura et Trou, là. Tu veux dire, t'es pogné, là. Tu vas payer pour. C'est qui nous appelle? Alain. Bonjour, Alain.
Bonjour. Félicitations pour votre émission.
Merci.
Moi, j'étais un ancien chauffeur d'autobus. J'en ai fait quelques années. J'étais un chauffeur de camion.
Mm-hmm.
Et puis, j'étais à Sainte-Mélanie, dans la Nadière. Et j'avais des primaires. Moi, qu'est-ce que je faisais pour protéger mes enfants, les petits-enfants? C'est que dans ces coins-là, c'est des petits rangs de campagne et ça passe assez vite, merci. Mm. Je bloquais la rue carrément avec mon autobus.
Vous étiez au milieu de la rue?
Je me parquais complètement au milieu de la rue parce qu'il réussissait à passer pareil.
Parce qu'il voulait passer.
Est-ce qu'il y a...
Ça n'a pas de bon sens.
Alain, est-ce qu'il y en a qui vous klaxonnent? Ah oui, il y en a qui passaient pareil?
Oh, oui. Oh, il y en a qui passent pareil, là. Même aujourd'hui, encore, là, j'en vois, là. Et puis, il y en a qui passent pareil, là. Et ils se foutent bien de ça, là.
Mon
les enfants, c'est pas important, là. Il y a des chauffeurs d'autobus qui sont aussi dangereux.
Par savoir, oui.
Je comprends pas le monsieur qui a mangé une étiquette de 500$ parce qu'il y avait des clignotants, parce que c'est tout à fait normal, à mon idée.
Mais vous avez dit, monsieur, il y a aussi des chauffeurs d'autobus qui sont dangereux. C'est quoi votre exemple?
Mon exemple, ben il y en a qui ont des enfants dedans, puis ils viennent nous couper en avant des chauffeurs. Moi, je suis un chauffeur de camion, puis je les vois passer, là, puis ils passent en avant de nous autres, puis ils nous coupent ça devant nous autres, puis on est chargés. Là.
C'est rassurant.
Merci, Alain, pour l'appel. C'est Christian, maintenant, qui nous appelle. Bonjour, Christian.
Oui, bonjour.
On vous écoute, là.
Oui, ben moi, je suis présentement chauffeur d'autobus scolaire, puis moi, je peux vous dire qu'à toutes les semaines, il n'y a pas une journée... Il y a au moins une journée par semaine que j'ai quelqu'un qui a passé sur mon stop.
Sac.
Vous faites quoi dans ce temps-là, Christian? Dites-moi ce que vous faites.
Ben, j'essaie de parce que des fois, c'est comme me dit M. Barrette, ça arrive souvent que la personne ne voit même pas. Elle est occupée à soit qu'elle est concentrée sur la route ou ben non, elle est occupée malheureusement avec un téléphone. Puis elle ne voit pas le stop. C'est, j'essaie toujours de faire des.
Des signes.
Puis même des fois, j'essaie de mon autobus de le mettre plus dans le milieu de la rue que sur le côté pour faire débarquer, parce que ça arrive trop souvent. Moi, je vous le dis, une fois par semaine au moins, j'ai quelqu'un qui a passé sur mon stop.
Tu vois, j'ai quelqu'un, pendant que vous me parlez, Christian, j'ai quelqu'un qui m'écrit exactement la même chose, qui me dit qu'il est chauffeur d'autobus. À tous les jours, me dit-il, il y a des personnes qui passent sur mon stop.
C'est quoi ça?
Et puis, il y en a qui font, on les voit accélérer. Parce que nous, on a tout le temps un premier avertissement à des lumières jaunes qui allument.
Mm-hmm.
Ça l'avertit qu'on va allumer nos rouges.
Ben oui.
Fait que c'est la même chose que les lumières rouges, jaunes et verts. C'est la même chose. Quand on a la jaune, on sait que la rouge s'en vient, il faut arrêter.
Les autres,
il y a même avec les autobus, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ça.
Merci, Christian, pour l'appel.
Donc, ce que je comprends, quand tu vois les lumières jaunes...
Il accélère.
Il accélère.
Et voilà.
Comme ceux qui passent les jaunes sur les feux.
Et voilà.
Ma femme m'a envoyé un message, mon Bernard, me disant qu'il n'y a pas de barrière sur l'autobus à Jonathan, il y a seulement le panneau d'arrêt.
C'est ça. Mais je te disais, il y a un stop. Il faut qu'il y ait un stop.
Oui, mais il n'y a pas de barrière qui se déplie.
Il n'y a pas la loi, non, je comprends. Mais tu n'étais pas sûr qu'il y avait un stop.
Ouais,
là, moi, je suis sûr qu'il faut qu'il y ait un stop. C'est Benoît maintenant qui nous appelle pour terminer. Bonjour, Benoît.
Bonjour à vous.
On vous écoute.
Écoutez, moi, je suis conducteur d'autobus transport urbain, bus de ville. Et puis, on a toujours des autocollants dans les portes à l'avant, surtout qui disent de ne jamais traverser devant l'autobus. Et la raison est simple, j'ai déjà évité à deux passagers au moins de ne pas se faire frapper. Ça traverse devant le bus quand même sans regarder. Et il y a des voitures qui sont toujours pressées, qui vont passer dans le sens inverse, à contresens, pour nous dépasser et sans faire leur arrêt à notre place. Et donc, c'est arrivé au moins deux fois que j'ai klaxonné assez rapidement pour que mon passager il sursaute et qu'il voit la voiture lui passer devant.
C'est rassurant.
C'est très, très dangereux. Les gens sont de plus en plus fous sur la route.
Et de plus en plus distraits.
On donne les permis de causer comme les bonbons dans les Cracker Jack, hein? Ils en ont tout le monde.
Mais c'est pas rassurant.
Merci, Benoît, merci.
Parce que justement, ces gens-là qui se foutent du reste puis qui sont pressés puis que c'est pas important, ben, quand tu vois ton enfant sortir de la maison le matin pour aller prendre l'autobus, tu peux bien être nerveux.
Je vais dire, il y a des gens là, qui nous écrivent, Michel, là, ils mettraient la pénalité tellement sévère que ça réglerait le problème. Il y en a un qui dit, on suspend le permis. Si tu brûles un stop d'autobus, il y en a un qui dit, va aller en prison même, peut-être exagérer un peu. Mais à la récidive, peut-être qu'il faudrait y penser. D'autres me disent, regarde, mets plusieurs milliers de dollars d'amende. Tu perds ton permis, problème réglé. Tu comprends?
En plus, on ne parle pas d'arrêter pendant trois jours. Temps que ça prend à l'enfant de traverser la rue, embarquer dans l'autobus, l'autobus est reparti pour
en avoir. Si c'était votre enfant. Et si c'était votre enfant. Merci, mon cher.
Merci, Bernard.
Hey, à demain. Hein. On s'arrête et au retour. Ah oui, cette histoire. Dans un CHSLD, il y a un résident dément. Et il s'en prend à un employé qui est noir. Et là, comment tu gères ça? Dans un instant.